Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, bonjour à tous. Lundi, c'est ouvert à Cali, en Colombie, la 16e conférence sur la biodiversité. Elle va durer 15 jours. Ce rendez-vous, qui est l'équivalent de la COP sur le climat, n'en est pas moins important. Elle fonctionne de la même façon, elle est onusienne, elle rassemble 194 pays, mais elle se déroule tous les 2 ans quand la COP climat se tient tous les ans. La Colombie a choisi comme symbole de cette rencontre la fleur d'Inirida, aussi connue comme fleur éternelle, pour sa capacité à supporter les sécheresses, les inondations qui s'enchaînent dans le département de Guéna, où elle est endémique. La capacité de résilience de la fleur aux 36 pétales pour 23 objectifs de biodiversité des Nations Unies et 13 écorégions de la Colombie s'inscrit dans le projet de paix et nature du gouvernement colombien qui a lancé un appel à améliorer notre rapport à la nature et à repenser le modèle économique qui surexploite et pollue la vie de la planète. L'heure est à la mise en œuvre des promesses qui ont été formulées il y a 2 ans à Montréal, au Canada. Lors de la COP 15 en décembre 2022, les 196 parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies qui avait été signée en 1992 ont adopté l'accord de Cumming-Montréal, qualifié d'accord de Paris de la biodiversité. Je vous en rappelle les principales cibles. Protéger 30% des terres et des mers, réduire de moitié le risque lié aux pesticides, restaurer 30% des espaces dégradés visant à mettre un terme à la perte d'espèces et d'écosystèmes d'ici à 2030. Les ambitions de la CDB sont donc structurées selon ses objectifs. Conserver la diversité biologique et en utiliser durablement les composantes. Deuxièmement, partager de manière juste et équitable les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Des mesures qui sont à la hauteur de l'urgence. Elles devraient être prises. D'abord donc, on a dit conserver la diversité biologique. La science a démontré que la destruction de la nature atteignait des niveaux records, mettant l'humanité en péril. Les signaux actuels sont alarmants. Près d'1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître au cours des prochaines décennies. Les populations de vertébrés sauvages déclinent. Pour la biodiversité, les choses ne sont pas aussi simples que pour le climat. Il n'y a pas une cause, les rejets de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère et contre lesquels il faut lutter. Il y a des causes multiples, toutes liées aux activités humaines. La destruction des habitats à cause de l'agriculture intensive et de l'urbanisation, la surexploitation, pêche, bois, chasse, le dérèglement climatique, les pollutions par les pesticides ou par le plastique et les espèces invasives. Donc tous les pays du monde sont concernés et responsables. Si demain les abeilles disparaissent, par exemple, il n'y aura plus de fruits. Pour l'instant, l'homme se débrouille. Vous avez dû voir des reportages sur le sujet. Des ruches par centaines sont mises sur des camions aux États-Unis et après plus de 3000 km, les ruches sont déposées dans des champs de myrtilles ou de baies rouges au Canada. Et là, les abeilles font leur travail. En Chine, c'est à la main que s'effectue la pollinisation quand viennent à manquer les abeilles. La semaine dernière, le WWF a publié un rapport, Planète vivante, un inventaire qu'il reconduit tous les 2 ans. Or, le verdict de cette dernière édition est sans équivoque. Nous avons 5 ans pour mettre le monde sur une trajectoire durable avant que la dégradation de la nature et du climat ne nous conduise tous vers des points de bascule irréversibles. Alors soyez attentifs à ces annonces, hein. Il ne faut pas s'y habituer. Le point de bascule, ce qu'on appelle le typing point pardon, en anglais, est un de ces moments à partir duquel le système perd sa stabilité. Il n'est plus capable de trouver en lui-même les forces dont il disposait. Et ce basculement peut engendrer d'autres instabilités. Je vais vous donner un exemple. La fonte des glaces au pôle, elle est impossible à enrayer. C'est donc un typing point qui a été franchi. Et par effet domino, la fonte entraîne la montée de la mer, des submersions, des modifications des courants marins et atmosphériques, qui à leur tour entraînent de graves modifications, des précipitations, des vents, du littoral. Nous avons atteint le point de nos retours. Et serons-nous capables d'en prévoir les conséquences? Saurons-nous exactement qu'est-ce qu'il va se produire? Un autre exemple, la disparition sous les flammes de la forêt amazonienne qui prive la planète d'un important puits de carbone, mais aussi qui signe la perte d'une diversité biologique immense. Et tout cela se passe très vite et nous ne savons pas, parce que nous ne l'avons pas étudié, ce que cela aura pour conséquence. Alors que faire? Cali sera-t-elle une de ces réunions mondiales de plus? La biodiversité semble parfois mise de côté au profit de la transition énergétique et de la décarbonation dont tout le monde parle. Il était crucial... Et pourquoi tout le monde en parle juste? Parce que forcément, les entreprises sont concernées en premier point et c'est d'elles qu'on parle beaucoup. Il était donc crucial de rappeler l'interdépendance entre les enjeux et de prouver que protéger le vivant constitue un levier de pérennisation économique et financière sous-estimé par les entreprises. Alors que plus de la moitié du PIB mondial dépend du vivant et des services écosystémiques qu'il fournit. L'alimentation, la pollinisation, le tourisme, les matériaux biosourcés, etc. etc. Il fallait donc un sursaut pour la biodiversité. En 2010, à Nagoya, une dizaine d'objectifs avaient été définis. Aucun d'eux n'a abouti. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient ni indicateur, ni méthodologie. En 2022, la COP15 de Montréal redéfinit des objectifs. Mais échaudée par les 10 années précédentes qui avaient vu s'aggraver le problème, elle devrait donc en fixer. Cela devrait établir comment y parvenir. Et c'est ce qu'on appelle une COP intermédiaire. Écoutons Sylvie Lemay, ambassadrice environnement, qui représentera la France à Cali lors de son audition par le Sénat.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour et merci pour l'invitation. Comme le disait le sénateur Dantec, effectivement, la mobilisation globale du monde en faveur de la biodiversité, qui a quand même connu une sorte d'apogée à Montréal, moi, j'observe qu'elle est un peu retombée. Et donc, ça fait plaisir de voir que notre Sénat français, en tout cas, continue de s'y intéresser. Je pense néanmoins que le fait que cette COP soit à Cali, en Colombie, dans un pays qui est méga divers et qui non seulement est méga divers, mais respecte sa propre biodiversité en ayant déjà protégé 30% de son territoire, ce qui est, comme vous le savez, un des objectifs de l'accord Kunming-Montréal, est en fait aussi très mobilisateur. Mobilisateur pour la société civile, je pense pour les journalistes et pour le monde entier. C'est je pense, le bon pays pour poursuivre cette mobilisation. Et je crois que le gouvernement colombien est vraiment attaché à faire, au-delà de la négociation même des objets de la COP, aussi un lieu de mobilisation. Alors, vous m'interrogiez sur les enjeux. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs enjeux différents à Cali. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est de poursuivre la mobilisation sur la biodiversité de façon générale dans le monde. Je crois que les petits pas en arrière que nous observons ici et là ne sont pas d'ailleurs juste sur la biodiversité. Je pense que c'est le sujet de l'environnement qui est aujourd'hui un peu mis à mal. Et que la biodiversité ne fait pas exception de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, pour les Colombiens, c'est de faire une COP de l'Amérique latine. Et donc d'avoir aussi, d'apporter les sujets de l'Amérique latine au cœur de la COP, et en particulier les sujets de la Colombie, qui sont des sujets, comme vous le savez, d'un pays qui est encore en guerre intérieure, qui ne maîtrise pas l'ensemble de son propre territoire, et qui veut du coup faire la paix, aussi bien en interne que la paix avec la nature et la paix entre les peuples. Et ça fait partie des choses que porte la ministre de l'Environnement et l'ensemble d'ailleurs gouvernement colombien. Et ça explique un certain nombre de déclarations supplémentaires et d'initiatives supplémentaires, dont des initiatives sur les peuples indigènes et collectivités locales, etc., dont je pense on entendra beaucoup parler, parce que pour eux, c'est le lieu ou peut-être mieux expliquer peut-être qu'ailleurs à quel point les communautés indigènes dans cette partie du monde, amazonienne en tout cas, et certainement ailleurs, en fait jouent un grand rôle dans la conservation de la biodiversité ou dans son usage durable.
La COP 16, donc, sera, comme vient de le dire Sylvie Lémé, la COP de l'Amérique latine, préoccupée de ses ressources et de leur accès. Et retiendrons-nous quand, à travers tous les médias internationaux, s'écrira le message final de la COP 16, que la Colombie avait lié la paix et la démocratie, une paix avec la nature, une paix avec les hommes, comme thème de cet événement. La présidente d'AFCM2, c'est-à-dire l'association qui s'occupe de la Colombie, Sonia Rincon-Ortiz, nous avait permis d'entendre le 16 mai à Montpellier Carolina Diaz, professionnelle de la finance et des relations internationales, ministre plénipotentiaire, et deux intervenantes de premier plan, l'une qui est devenue la parole institutionnelle de la position d'un État dans sa dynamique onusienne, et l'autre qui représentait davantage la société civile avec sa lutte pour la défense des mangroves et de l'Amazonie. Au cours des réunions préparatoires, j'ai eu l'occasion de mesurer un gap très important entre l'attente des pays comme la France, préoccupée de sa stratégie, de ses financements, et les attentes du Sud, l'Amérique latine, l'Afrique, où l'on parle de survie, de paix ou de guerre, de destruction massive de la biodiversité. À Cali, le monde à deux vitesses va-t-il trouver un consensus ? L'autre objectif, et pas des moindres, c'est de partager de manière juste et équitable les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. La Convention sur la biodiversité est restée longtemps sous les radars parce que le monde du Sud ne pouvait s'entendre avec le monde du Nord. Au Sud est la richesse de la biodiversité, au Nord la richesse industrielle et la pratique de l'appropriation. Ce n'est qu'en 2010, à la rencontre d'Aichi Nagoya, qu'un accord a pu voir le jour sur la fameuse APA. L'accès et le partage des avantages, ou la possibilité d'échanger en les monnayant les ressources du vivant. Mais outre le fait qu'il est bien difficile de donner un prix au vivant, l'un des plus gros défis sera de trouver des ressources capables de concrétiser ces engagements en invitant le gouvernement, le secteur privé, les organismes multilatéraux et la société civile à unir leurs forces pour chercher des solutions. Certains disent que sur ce point, Cali échouera. D'autres proposent des solutions. Ainsi, un rapport qui a été publié en septembre par EarthTrack rappelle que les subventions dites néfastes, celles que l'on octroie encore aux fossiles, à l'agriculture destructrice, à la construction en zone protégée, ont continué de croître. Elles ont atteint 2 600 milliards de dollars, soit 2,5% du PIB mondial. La cible 18 du cadre mondial qui va être discutée à Cali prévoit de supprimer ces subventions d'au moins 500 milliards de dollars par an d'ici 2050. Cette proposition a plus de 10 ans. Sera-t-elle écoutée ? En tout cas, il faut absolument trouver le financement.
Le deuxième sujet, c'est au fond comment les entreprises peuvent contribuer payer quelque chose, je vais le présenter comme ça pour l'instant, lorsqu'elles utilisent des informations qui sont du génome du vivant et qui n'est pas directement traçable. Le protocole de Nagoya permettait, lorsque les pays lorsqu'une entreprise allait dans un pays prendre une plante X et en tirer à travers ces substances spécifiques un médicament Y, pour lequel il se faisait beaucoup d'argent. Le protocole de Nagoya prévoyait que le pays devait être compensé en partie par l'entreprise. Désormais, toutes ces informations sont dans le cloud. Elles ne sont plus vraiment traçables. Donc, on ne sait plus d'où sortent les petits bouts de génome qui sont utilisés ensuite pour leur propriété par les entreprises pour faire un produit qui pharmaceutique, qui de cosmétique ou même alimentaire. Et donc les pays ont dit tout cela n'est pas très juste et il faut trouver une nouvelle façon de faire. Donc c'est ça qu'on est en train de négocier, ça dure depuis 2 ans, c'est horriblement compliqué pour être très très franche. On a du mal à savoir par quel tuyau on va arriver à faire en sorte que cela puisse rapporter suffisamment d'argent quand même au pays pour ne pas mettre en place quelque chose de trop complexe et en même temps qu'il n'y ait pas des différences de concurrence entre les entreprises. Donc la position française et européenne, c'est d'essayer de faire en sorte qu'à la sortie, nous n'ayons pas un système qui impacte trop les entreprises européennes par rapport au reste du monde, c'est-à-dire s'assurer que toutes les entreprises seront traitées à la même enseigne. Or, vous savez que les États-Unis ne font pas partie de la Convention pour la biodiversité biologique. Donc, on est dans un sujet qui est en réalité très, très délicat.
À Montpellier, s'est dessiné un processus très particulier que l'on appellera désormais le process montpelliérain. Une délégation va aller le défendre à Cali. Et ce process combine l'avance prise par les chercheurs dans le cadre de leur recherche transversale, la capacité à financer les expériences et à associer les entreprises. Les travaux qui ont été conduits par les chercheurs de multiples disciplines et de multiples organismes de recherche, partant de pôles reconnus en santé, en alimentation, en agronomie, en décarbonation, en gestion durable de l'eau, deviennent des références au niveau international. Plus de 1000 emplois ont été créés, des synergies ont vu le jour, et surtout Medvalley, qui est le lieu où se retrouvent toutes ces recherches, devient catalyseur pour Montpellier en santé globale, One Health, un thème sans doute largement évoqué dans les couloirs de Cali. Clara Hart, qui est déléguée au rayonnement international et à la coopération internationale à Montpellier, fera partie de cette délégation. Elle nous explique ce qu'elle attend de Cali. Bonjour Clara.
Bonjour Dominique. Bonjour à toutes.
Alors, pourquoi allez-vous à Cali?
Alors, je vais à Cali pour représenter au sein d'une délégation plutôt scientifique, avec Agropolis International, les universités. J'y vais pour représenter Montpellier, parce que Montpellier, on n'est pas peu fiers de le dire, est au cœur de ce processus de Montpellier, en anglais Montpellier Process. Et ce Montpellier Process est une manière de montrer qu'aujourd'hui, de nos jours, tout est relié. On va sur un COP qui est un COP intermédiaire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, pour faire un petit peu, pour revenir un peu dans le temps, Dominique, que des COP thématiques manquent parfois d'intersectorialité. Et très souvent, on est un peu trop siloté. Les panels d'expertise scientifique, le dialogue, pas assez ensemble.
Et dans le passé, alors, là-dessus, on est assez d'accord. D'ailleurs, il y a un membre du GIEC qui s'appelle François Gémen qui regrette souvent que les COP climat n'intègrent pas assez la dimension sciences humaines, sociologiques, philosophiques, enfin, n'intègrent pas assez les problèmes humains, quoi, en quelque sorte.
Exactement, c'est ça. Et puis, on avait quatre moments forts dans le passé. On avait l'IPBES pour la biodiversité, on avait le IPCC pour le climat, on avait le OHHLEP pour la santé globale, l'HLPE-FSN pour la nutrition. Donc voilà, tout le monde travaillait un peu dans un couloir de nage. Et en 2001, 2021, le processus de Montpellier, le Montpellier Process, est né de ce constat. Et aujourd'hui, nous travaillons de manière complètement transversale avec l'ensemble des acteurs pour faire la promotion et puis surtout fédérer, en fait, on cherche à fédérer une communauté scientifique et de pratique autour d'expérimentations locales, de transformation du système alimentaire dans cette approche holistique que nous portons à bras le corps à Montpellier, qui est la santé globale.
Alors, tout cela peut paraître un peu abstrait pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez un exemple qui montre qu'on travaille, justement, que tous ces secteurs peuvent travailler ensemble?
Oui, je pense que, en fait, on va travailler, quand on travaille sur la santé globale, sur une approche holistique, on va travailler, par exemple, sur le vieillissement, le bien vieillir dans nos sociétés. On sait très bien que pour bien vieillir, il faut bien se nourrir, donc manger sainement, manger une alimentation qui est locale, qui est de qualité. Et ça intègre immédiatement la production, l'aspect agroalimentaire et agroécologie. Ensuite, on sait que pour bien vieillir, il faut avoir une activité physique. Donc on va tout de suite faire appel aussi à la santé physique humaine pour justement faire bouger nos aînés pour qu'ils puissent vieillir en bonne santé. On sait aussi qu'il faudrait pouvoir respirer une air pure dans les alentours de la vie de ses aînés. Donc on essaye aussi de travailler, comme on le fait à Montpellier, sur le fait de baisser la pollution de l'air et d'avoir une air qui est respirable et qui est bon pour la santé, aussi bien pour les aînés que pour les jeunes et que pour tout public montpelliérain. Et tout le travail que nous faisons sur la mobilité douce.
Alors on comprend bien, et merci, on comprend bien donc que ce process montpelliérain associe l'ensemble des secteurs de la recherche et qu'il peut proposer comme solution finalement la mise en regard des solutions les unes avec les autres. Est-ce qu'à votre avis, ce qui se passe à Montpellier peut-être justement reproductible. Est-ce que ça peut être une solution qui soit proposée et adoptée par Cali?
Absolument. Nous pensons que nous avons quelque chose de très, très nouveau. Et en fait, ce qu'on fait à Montpellier, c'est très souvent le cas, et ça a d'ailleurs toujours été le cas, hein, quand on pense à nos 1000 ans d'histoire et 800 ans, par exemple, de la faculté de médecine, fabriqués, façonnés par des personnes qui sont venues des quatre coins du monde pour travailler ensemble, toute cette matière grise planétaire qui s'est réunie à Montpellier. En fait, comme toujours, on cherche à faire de Montpellier un lieu de dialogue entre la science, entre les politiques, entre la société indépendante, la société civile, à travers d'un processus qui est accessible, consultative et transparente et basée, fondée sur des données probantes.
Donc, alors, voilà, on comprend bien ce qui se passe.
Montpellier a toujours travaillé comme ça.
Oui, alors effectivement, on comprend très, très bien quand on est montpelliérain quel est votre objectif, mais quelle est l'utilité de cette proposition à Cali? On est au niveau mondial et souvent, finalement, les gens ne comprennent pas justement l'intérêt de ces COP parce qu'elles sont mondiales. Et vous, vous allez y défendre un processus qui est purement local. Donc, comment vous voyez les choses?
Alors, Dominique, non, parce que le Montpellier Process, le processus de Montpellier qui est né à Montpellier, est un processus mondial déjà. Nous avons, dans le Montpellier Process, déjà 16 pays engagés. 16 pays qui travaillent ensemble pour proposer un changement de paradigme dans ce monde globalisé qui ne doit pas oublier les spécificités culturelles et les écosystèmes locaux, ce qui est vraiment le propre du processus de Montpellier. Donc déjà aujourd'hui, avec Agropolis International, avec le CJR qui a son siège à Montpellier, nous travaillons déjà de cette manière-là avec 16 pays dans le monde. Et nous allons à Cali pour faire élargir le champ d'action et pour faire agrandir notre groupe. Voilà. Donc c'est extrêmement établi déjà ce travail depuis 2021. Hein, donc on est déjà à 3 ans de fonctionnement et nous sommes ensemble main dans la main à Cali, l'idicidaire politique alors que je représente, hein, je représente le maire à Cali, mais aussi les scientifiques et puis tous les acteurs de l'écosystème scientifique multidisciplinaire pour montrer que le processus de Montpellier parle au monde et fonctionne. Donc on est déjà positionné, comme je vous ai dit, dans plusieurs pays.
Bon, Claire, vraiment merci pour cet éclaircissement. On aura l'occasion de toute façon de reparler ensemble et de faire sans doute un débriefing de votre action sur Cali et de voir, puisqu'on l'a dit, vous l'avez dit également, on est sur une COP intermédiaire, donc on est en train de construire des outils qui vont nous permettre peut-être de faire face à ces dégradations planétaires. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie beaucoup et bon courage à Cali et surtout défendez bien Montpellier.
Merci beaucoup Dominique et juste une dernière phrase parce que ça me tient à cœur. Faire la paix avec la nature, avec la biodiversité passera nécessairement par de nouvelles voies de coopération. Et vive le Montpellier Process.
Soyez entendus. Merci à vous. Au revoir.
Merci. Au revoir.
En tout cas, nous ne serons pas abandonnés face aux grands enjeux qui vont se dérouler et se discuter à Cali, puisque au-delà de la COP 16, les 17 et 18 décembre prochains, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qu'on appelle aussi le GIEC de la biodiversité, publiera 2 rapports majeurs, dont le premier Nexus vise à analyser justement toutes ces interdépendances dont nous venons de parler.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.